bienvenue à tous sur Europe 1, il est midi.
Il est clair que le virus est moins présent. Il y a même plus de gens qui circulent parce que plus de gens travaillent et nous avons peu de nouveaux malades depuis 15 jours.
Et si c'était fini? Et si le Covid-19, cette maladie qui jusqu'à présent a causé la mort de plus de 260 000 personnes dans le monde, Pierre, touchait à sa fin?
C'est ce que croient savoir quelques experts, notamment le professeur Toussaint, professeur de physiologie. Qu'en est-il dans la réalité? Nous faisons le point dès le début de ce journal avec l'urgentiste Frédéric Adnet à Bobigny. L'autre sujet qui nous intéresse, qui vous intéresse évidemment, c'est le déconfinement. Où, quand, comment? Édouard Philippe donne cet après-midi, Raphaël, toutes les précisions.
L'actualité, Pierre, c'est aussi les chiffres de l'INSEE ce matin. Plus de 450 000 destructions d'emplois, licenciements massifs en perspective sur Europe 1. Laurent Berger, le numéro 1 de la CFDT, lance une mobilisation pour l'emploi.
Ce que je demande, c'est que les organisations syndicales, les organisations patronales, avec le ministère du Travail, se mettent autour de la table pour discuter d'une mobilisation générale sur l'emploi.
Dans ce journal également, des masques pour tous. Oui, mais une fois utilisés, qu'est-ce qu'on en fait? Comment est-ce qu'on les lave? Précision avec un spécialiste dans quelques minutes. Une plainte déposée par une journaliste allemande contre Valérie Giscard d'Estaing. Elle l'accuse d'agression sexuelle. La Banque d'Angleterre sort son home et son bouclier. Suffisamment de réserves de cash pour faire face à la crise. Nous recevrons en fin de journal, tout à l'heure vers 12h45, la spécialiste Catherine Mathieu sur le sujet. Et puis le temps. Bonjour Anissa Haddadi.
Bonjour Pierre, bonjour Raphaël et bonjour à tous.
Vous avez mis vos lunettes de soleil aujourd'hui?
Ah bah c'est indispensable. Lunettes de soleil, crème pour se protéger et on est devant la fenêtre. Parce qu'aujourd'hui on a un avant-goût de l'été avec une hausse des températures et beaucoup de soleil. Il va faire beau aujourd'hui avec quelques nuages sur les reliefs et un petit peu de vent dans le sud. Je vous donne le détail de cette très belle journée à la fin du journal.
Merci Anissa, à tout à l'heure pour bronzer avec vous. Météo complète juste avant 13h sur Europe 1.
Europe 1, écoutez le monde changer.
Et si c'était vrai, Pierre, la différence, c'est qu'on n'est pas dans un roman de Marc Lévy, mais bien dans la réalité quotidienne du Covid. Certains spécialistes démontrent que la maladie touche peut-être bien à sa fin.
Ouais, en particulier ce professeur Toussaint, professeur de physiologie à l'Université Paris-Descartes, qui s'est attardé sur les courbes de l'évolution de la maladie dans le monde entier. Ce qu'il faut constater en effet, c'est que le nombre de nouveaux cas de coronavirus en France ne cesse de baisser chaque jour. Nous sommes même en dessous de 1000 nouveaux cas journaliers, alors que le Premier ministre se fixait un cap de 3000.
Alors nous avons enquêté, Gwendoline Debonneau avec Jean-Sébastien Soldaini. Vous êtes allé voir sur le terrain, tout d'abord en Seine-Saint-Denis.
Oui, parce que c'est dans ce département que les spécialistes s'attendaient à voir une flambée de l'épidémie. Parce que la population est plus vulnérable, les habitants se sont confinés dans des appartements plus petits. Pourtant, il n'y a pas de flux d'arrivée dans les urgences de Seine-Saint-Denis. Alors, les professionnels s'interrogent, est-ce qu'un autre facteur que le confinement expliquerait cette baisse d'arrivée aux urgences? La saisonnalité du virus, l'épidémie qui s'éteint d'elle-même. Les médecins ne se prononcent pas, mais le constat est clair pour la Seine-Saint-Denis, explique Christophe Prudhomme, porte-parole des médecins urgentistes.
Il est clair que le virus est moins présent. Parce que les conditions de vie n'ont pas changé, il y a même plus de gens qui circulent parce que plus de gens travaillent, on a vu que les chantiers ont repris, et nous avons peu de nouveaux malades depuis 15 jours. C'est-à-dire qu'on a l'impression que le virus a tué les plus faibles, et ensuite, eh bien, la population résiste mieux.
Gwendoline, en résumé, l'épidémie semble ralentir, là où tout le monde s'attendait au contraire à l'avoir flambé, est-ce que ça se vérifie ailleurs?
Eh bien, c'est ce qui remonte aussi des hôpitaux de Garches à la Pitié-Salpêtrière à Poitiers, plus représentatifs de l'ensemble de la population. Un grand CHU nous dit qu'en 3 jours, l'hôpital n'a reçu qu'un seul cas positif. Et puis, il y a Médecins sans frontières qui travaillent auprès des migrants et des sans-abri. Fin mars, ils enregistraient 31% de cas suspects. C'est tombé à 8% la semaine dernière. Alors, cette population est plus réticente à se déclarer malade, hein, la peur d'être stigmatisée, mais cela ne remet pas en cause ce qui est observé sur le terrain. L'épidémie ralentit très nettement.
Merci Gwendoline Debonneau, enquête conjointe avec Jean-Sébastien Soldaini. Bonjour Frédéric Adnet.
Bonjour.
Merci d'être en direct dans Europe Midi. Vous êtes sans doute l'un des mieux placés pour juger de cette hypothèse. Vous êtes le chef des urgences à l'hôpital Avicenne à Bobigny. Quels sont vos chiffres ces dernières 24 heures? Combien d'admis et combien de malades au total?
Ben, écoutez, je rejoins un petit peu ce qui vient d'être dit. Hein. On assiste à une diminution très 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 sensible de nombre de nouveaux cas de Covid-19 qui se présentent aux urgences ou des appels au SAMU pour le Covid-19. Alors, pour vous donner un exemple, au cœur de l'épidémie, on avait une centaine de patients par jour Covid-19. Actuellement, on est à moins de 3 patients Covid suspects, c'est-à-dire qu'on ne sait même pas si ce seront des véritables patients qui développeront la maladie de Covid-19. Donc on assiste vraiment à une diminution très 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 sensible du nombre de patients malades qui viennent aux urgences. Bon, ceci étant, il faut garder quand même, il faut raison garder, il faut garder nos mesures de protection, hein, et c'est pas du tout un appel au relâchement que je fais. Mais il est vrai que le confinement n'explique pas tout, surtout dans notre population.
Alors justement, qu'est-ce qui explique ce ralentissement dans un département qui est aussi touché que le vôtre ?
Écoutez, pour être sincère, je m'attendais à avoir, si vous voulez, ce que j'appelle un bruit de fond, c'est-à-dire avoir toujours un flux de patients qui viennent des populations défavorisées, les migrants. Il y a un bidonville en face de la Vicenne, et donc on sait que le confinement n'est pas du tout respecté. Des familles nombreuses qui habitent dans des conditions précaires, des logements exigus. Et donc je m'attendais quand même à voir tous les jours 10-15 patients qui développent le Covid-19. Force est de constater que là, j'en ai pratiquement plus. Alors, qu'est-ce qui peut expliquer ça? Je ne pense pas qu'il y ait une immunité supérieure en Seine-Saint-Denis que dans les autres départements d'Île-de-France. Elle est estimée à 10-12% et ça ne suffit pas à expliquer cette baisse de malades.
Oui, puisqu'il faut 60% normalement pour l'immunité.
Voilà, pour arrêter une épidémie, il faut entre 60 et 70%. Est-ce qu'on a affaire tout simplement à une évolution naturelle d'un virus saisonnier avec un pic épidémique et puis une extinction de ce virus parce que il y avait un changement climatique, ou il y a une histoire naturelle d'un virus saisonnier qui fait que l'épidémie s'est toute seule.
On peut encore envisager la saisonnalité alors qu'on avait balayé cette hypothèse.
Ben, on ne l'avait pas si tant balayé que ça, parce que j'ai relu récemment quand même un article de Science, quand même, qui sont une des plus grandes revues scientifiques mondiales, qui faisait des modélisations sur la saisonnalité que tous les autres coronavirus...
Je fais référence à ça parce que le professeur Raoult invoque la saisonnalité depuis le début, et puis évidemment, il y a beaucoup personnels de médecine qui sont contre cette hypothèse, et peut-être contre lui.
C'est
peut-être un mauvais procès.
Voilà, pas qu'on ne compte, c'est qu'il y a une incertitude, et elle existe toujours cette incertitude. C'est que les coronavirus, ceux qui sont gentils, hein, il y a trois coronavirus qui sont gentils en France, et il y en a trois qui sont méchants, sont saisonniers, hein, et on le sait très bien, c'est les rhumes des enfants. Sur un virus émergent, on ne peut pas se prononcer, donc on fait, si vous voulez, des paris sans fondement. Actuellement, il y a une grosse incertitude sur la saisonnalité. Mais ce que j'observe, moi, du fond de mes urgences de la Seine-Saint-Denis, c'est que je ne peux pas expliquer que par les mesures de confinement la baisse du nombre de patients que je vois arriver, qui est vraiment une baisse très, très sensible. Donc, veut dire quoi? Ça veut dire qu'il faut maintenir nos mesures de précaution, les mesures barrières, etc. Mm-hmm. Mais on a quand même un espoir d'être sur une queue d'épidémie.
Que d'épidémie, ce qui signifie que la fameuse deuxième vague dont on a beaucoup parlé n'aura peut-être jamais lieu.
Alors, ça dépend de ce qu'on entend par deuxième vague. Si c'est une récurrence saisonnière, à ce moment-là, la deuxième vague, ça sera une deuxième épidémie qu'on voit dans ce type de virus, c'est-à-dire à l'automne, l'hiver, où il y a une réémergence de ce virus. Est-ce qu'il y aura une deuxième vague parce qu'on a baissé un petit peu notre garde et on a nos mesures barrières et le confinement est beaucoup moins respecté et s'est relâché? C'est une possibilité qu'on ne peut pas complètement écarter. Moi, je suis assez optimiste en pensant que peut-être on aura un rebond, mais dans toutes les modélisations, on n'a jamais vu une deuxième vague dans ces conditions être supérieure à la première vague et venir submerger les hôpitaux. Donc peut-être qu'on aura un rebond, hein. Nos capacités maintenant hospitalières commencent à devenir significatives pour pouvoir accueillir, si vous voulez, de nouveaux malades, hein, parce que nos réanimations commencent à avoir de la place. Aux urgences, j'ai de la place, et dans les services, il commence à y avoir de la place.
Donc, et on a appris avec cette épidémie comment faire face pour éventuellement un retour, et on l'espère pas, ce fameux effet boomerang du Covid-19 qui pourrait revenir après l'été. Merci beaucoup, professeur Adnet, pour tant d'explications très claires dans Europe Midi.
Et puis, il y a l'autre théorie, hein, Pierre, qui consiste à bannir le confinement et au contraire à provoquer, oui, vous avez bien entendu, provoquer l'immunité de toute une population.
Oui, c'est le scénario, souvenez-vous, un temps imaginé par Boris Johnson avant de se rétracter, plus ou moins suivi par la Suède, mais il faut dire que la densité de population n'est pas la même. Aux États-Unis, une région est très touchée par le coronavirus, celle de Seattle. Et là-bas, justement, Justin Morin, on fait des fêtes Covid qui consistent à se passer le coronavirus.
Oui, le principe est simple. Vous prenez quelques personnes testées positives au virus, vous les mettez au milieu d'une fête, ils se mélangent à d'autres personnes venues intentionnellement pour être infectées et qui espèrent ainsi être immunisées. Ça donne une Covid party. L'alerte a été donnée par les autorités de la ville de Walla Walla, 30 000 habitants. Jusqu'à présent, une centaine de personnes ont été infectées et c'est en retraçant le parcours des malades récents qu'ils ont découvert le phénomène. 25 nouveaux cas ont avoué avoir participé à une Covid party. Une attitude extrêmement dangereuse et irresponsable, mettent en garde les autorités locales. D'abord, rappelle-t-elle, parce qu'on n'est même pas sûr qu'une infection permette d'être immunisé. Ensuite, parce qu'on connaît encore très mal ce virus et les problèmes de santé qu'il peut causer à long terme. Le département de santé continue d'enquêter pour tenter de découvrir où et comment ont été organisées ces fêtes et surtout s'il y en a d'autres de planifiées. Alors pour l'instant, ça semble très localisé, mais ça réveille de vieux démons aux États-Unis. Avant les Covid parties, il y a eu les Pox parties, lors desquelles des parents exposaient délibérément leurs enfants à d'autres enfants touchés par la variole pour renforcer leur système immunitaire.
Justin Morin, midi 11.
Europe 1.
Restez avec nous, vert et rouge, vert ou rouge, de quelle couleur serons-nous ce soir? Édouard Philippe prendra la parole cet après-midi à 16h et puis nous nous pencherons dans les 10 minutes qui viennent aussi sur la délicate question des déchets médicaux.
Europe 1, Pierre de Villeneuve,
Raphaël Duchemin.
12h12 sur Europe 1, tout à l'heure à 16h précisément, nous retiendrons notre souffle, Pierre. Édouard Philippe dévoilera la très attendue carte des départements français, rouge et vert.
Et là, beaucoup reprennent l'image de la roulette russe. Heureusement, rien n'est fait au hasard. Mathieu Charrier, vous allez nous éclairer sur tous ces critères qui déterminent la couleur.
Alors pour l'instant, il n'y a que deux critères. D'abord le premier, il mesure la circulation du virus en se basant sur la proportion de patients qui se présentent aux urgences pour suspicion de Covid-19. Là, si vous prenez seulement ce paramètre, seuls deux départements métropolitains sont en rouge, c'est Paris et le Val-d'Oise. Ensuite, il y a le deuxième critère qui lui mesure la tension hospitalière en se basant notamment sur les places disponibles en réanimation. Et là, si vous prenez seulement ce deuxième paramètre, tout le Grand Est, l'Île-de-France et la Bourgogne-Franche-Comté sont toujours en rouge. Or, si vous êtes rouge sur l'un des deux critères, seulement l'un des deux critères, eh bien vous êtes rouge dans la carte finale, c'est automatique. C'est pour ça que dans quelques heures, il y a de fortes chances que ces trois régions restent en rouge, même si la bonne nouvelle, c'est que le nombre de patients en réanimation continue de diminuer. Donc, hors Paris et Val d'Oise, les autres départements en rouge pourraient basculer en vert assez rapidement. Après, il y a la question du orange. Pour l'instant, tous les départements qui étaient en orange et ont changé de couleur sont devenus verts. Donc ce soir, là encore, il y a de fortes chances que ce soit le cas.
Mathieu, ces couleurs sont définitives ou elles peuvent encore changer?
Alors, elles vont encore changer. Là, ce sont les couleurs pour lundi, pour le début du déconfinement. Mais le gouvernement doit ajouter progressivement, à partir de lundi, justement, un troisième critère annoncé initialement par le Premier ministre, mais qui n'a toujours pas pu être pris en compte. C'est celui de la capacité de tester les malades et de mettre en place des brigades pour remonter les cas contacts. Toutes les couleurs pourraient alors être chamboulées. Ce qu'on ne sait pas, et on espère que le Premier ministre le précisera cet après-midi, c'est si ces cartes actualisées seront présentées, elles aussi, chaque soir, à partir de lundi, ou si ce sera seulement une fois par semaine, ou seulement en vue de 2 juin. Sur ce point-là, tout reste à préciser.
Merci Mathieu Charrier. On n'a pas fini de voir des couleurs. Le rouge et le vert, c'est donc le roman du déconfinement. Oui, mais voilà. Que fait-on en cas de mitoyenneté? Peut-on passer du rouge au vert, du vert au rouge? Pierre Herbulot est allé sur la ligne rouge entre l'île de France et la Normandie. Rouge ou verte d'ailleurs, reportage.
Une petite rivière sépare Amenucourt, la rouge, de Gagny, la verte.
Eh ben bonjour à toi, ravi de te recevoir.
Oui, merci de me recevoir.
Mais Frédéric Cambourieux, la maire du village francilien, la traverse sans hésiter pour rejoindre Pascal Joly, son homologue normand.
Il n'y a pas de douanier à l'entrée de Gagny pour savoir d'où viennent les gens. Je dirais qu'il n'y a pas de différence fondamentale entre le village d'Amenucourt dans le Val d'Oise et le gros bourg, on va dire, de Gagny dans l'Eure. Quelqu'un qui ne connaît pas la région passerait d'une commune à l'autre sans savoir qu'il change de département.
Sans commerce dans leur village, les rouges sont toujours allés chez les verts pour faire leurs courses et ça continuera après le 11 mai malgré la différence de couleur.
Ça ne va pas changer les relations entre nos deux communes. Je pense que la seule différence qu'il peut y avoir, c'est au niveau du déconfinement. Peut-être qu'en zone verte, les cafés pourront réouvrir, les... Voilà.
Ça n'empêchera pas ma collègue de venir manger au restaurant de Gagny, par exemple. Il suffirait que je l'invite. Je vais le faire.
Les élus ne prendront donc aucune mesure qui pourrait limiter leurs relations de voisinage, à moins d'y être contraints par leurs préfectures respectives.
Rouge ouvert, c'est pareil.
Le déconfinement ici sera daltonien. Entre l'Eure et le Val d'Oise, Pierre Herbulot, Europe 1.
Et ce soir, 18-20 spécial avec Nathalie Lévy. En réaction à ces annonces du Premier ministre, les grandes voix, les experts sont là, les correspondants partout en France qui vous expliqueront comment ça se passe justement dans leur région. Et bien sûr, vous au 39-21, le standard d'Europe 1.
Et à propos de lignes, tiens, c'est une deuxième ligne, Pierre, dont on parle peu. Et pourtant, un immense défi sanitaire qui continue de se jouer dans cette épidémie du coronavirus. La production de déchets médicaux a explosé dans les hôpitaux.
Oui, toutes ces blouses, charlottes, masques, gants, compresses ne sont pas jetées comme des ordures classiques. Ils doivent être collectés pour être incinérés. Jamais les professionnels du secteur n'avaient vu de telles quantités à détruire. Et Théo Manval, elles ont quasiment doublé au niveau national.
Oui, à Nancy, on est passé de 70 à 130 tonnes par semaine, 130 tonnes par jour pour toute l'Île-de-France. Trois fois plus de containers à évacuer de la Pitié-Salpêtrière à Paris. Des containers spéciaux qui doivent être incinérés rapidement à plus de 1000 degrés. Et les centres d'incinération se retrouvent débordés. Marc-Antoine Belté est directeur du développement chez Veolia.
Ça a été une explosion. On a doublé les fréquences de collecte. On a accéléré les cadences sur les lignes de traitement. Là, on tournait 6 jours en 2 équipes. Là, on est passé 7 jours sur 7 et en 3-8. Pour faire tout ça, il faut plus de monde, donc on a renforcé aussi les équipes à peu près de 50%.
Et face à la saturation, les sociétés de collecte ont même dû créer des navettes pour évacuer les déchets d'Île-de-France vers Nantes, Blois ou Le Mans. Autre problème, dans certains hôpitaux, le volume est tel qu'il n'est parfois plus possible de bien fermer les conteneurs. Et là, danger pour les conducteurs des camions qui les récupèrent, explique Sylvain Camessa, délégué CFDT chez Proserve Dasserie, le leader du secteur.
La conscience professionnelle parfois fait que les bacs qui n'étaient pas fermés ont été quand même collectés en contact direct avec ces déchets. Le risque, c'est la contamination. On a fait des efforts pour servir les hôpitaux.
Des hôpitaux pour lesquels le Covid augmente enfin l'addition jusqu'au bout, puisqu'ils vont devoir payer la facture de ces déchets supplémentaires à évacuer. Pour certains, l'addition a déjà augmenté de 50% le mois dernier.
Merci Théo Manval. Et l'autre question qu'on se pose évidemment, c'est que faire nous de nos masques? Nous sommes dans l'obligation d'en porter désormais, notamment dans les transports, et donc de les jeter s'ils sont chirurgicaux, de les laver s'ils sont en tissu. Bonjour Arnaud Marty.
Bonjour Arnaud Marty, oui.
Merci d'être avec nous, Arnaud Marty, pardon. Vous êtes directeur commercial et développement chez Cosmolis, spécialiste du traitement des déchets à risque. On a la réponse à cette question. Qu'est-ce que je fais avec le masque chirurgical que j'ai chez moi et que je dois jeter? Je le mets dans la poubelle jaune, la poubelle verte?
Alors là, aujourd'hui, le ministère de la Santé a sorti, de toute façon, les réponses, puisque la cellule a très très bien géré cet aspect-là, cet aspect environnemental, et on a été en contact pour poser les bonnes questions. Effectivement, il y a une procédure qui est suggérée, qui est de mettre un emballage séparé, à part, et après de mettre dans des déchets, puisque c'est du papier, donc c'est bien sûr valorisable, et donc de mettre dans la bonne poubelle, mais séparément, physiquement, dans un sachet, et surtout d'attendre 24 heures avant de le destiner à l'abandon, et donc de le remettre au service de collecte.
Ça, c'est terrible, parce qu'on en voit déjà dans la rue, on en voit dans le caniveau, les gens font n'importe quoi.
Absolument, on a bien sûr questionné le... Donc ça a été réfléchi en termes de procédure. Néanmoins, je pense que aujourd'hui, les usagers doivent se discipliner effectivement et recueillir les masques chez eux et les jeter dans leurs ordures ménagères, bien évidemment. Après, vous avez plusieurs cas de figure. J'entendais effectivement mes confrères discuter de l'augmentation d'activité. Cette particularité du déchet, elle va concerner, je vais dire, trois grandes familles. Il y a les particuliers, bien sûr, dont tout un chacun qui va devoir recueillir ses propres masques, les isoler physiquement dans ses poubelles pendant 24 heures avant de les remettre au service de collecte de déchets, pour bien sûr préserver les personnels de collecte. Mais vous avez bien sûr les gens qui sont pris en charge par des systèmes de soins à domicile, où là il y a une filière de déchets avec des soins risques infectieux. Ils peuvent néanmoins être concernés en tant que particuliers et mettre leur masque s'ils le souhaitent, s'ils ne sont pas contaminés dans, dans un sac et les isoler dans leurs ordures ménagères.
Mais la pression, elle est vraiment sur les particuliers, hein, Arnaud-Marie, parce que tout le monde n'est pas forcément informé qu'il faut respecter ces procédures. Est-ce qu'il y a eu un défaut de communication? Est-ce qu'on est certain que les masques qui arrivent dans nos poubelles, finalement, ont bien suivi le chemin que vous venez de décrire?
Je pense pas qu'il y a eu un défaut de communication. La cellule a officiellement communiqué. Ça a été diffusé. Maintenant, effectivement, une communication grand public, je pense, sera souhaitable. Vous prenez par exemple, on parle effectivement du grand public, mais vous prenez par exemple les entreprises. On est questionné, nous, par des gens qui n'étaient pas clients au préalable, sur la prise en charge des masques au sein des entreprises. Lorsque vous avez plusieurs centaines ou milliers de salariés sur un site et que vous allez leur mettre à disposition des masques à usage unique, bien évidemment, la question se pose, est-ce que j'applique une procédure qui est similaire à celle d'un particulier, c'est-à-dire isoler physiquement les masques 24 heures avant de les remettre dans un sac isolé dans les ordures ménagères, ou est-ce que j'adopte, comme certains le font, une procédure d'évacuation des déchets liquides sans risque infectieux en mettant en place une convention avec un prestataire qui habituellement s'adresse à des hôpitaux, effectivement, des cliniques, des laboratoires de biologie médicale ou des structures de soins à domicile, bien sûr.
En 20 secondes, pour les masques grand public qui sont en tissu, il faut les laver avec quelque chose de spécial ou à part, pas avec le reste du linge?
Là, pour le coup, je crois qu'il y a des procédures que vous pouvez très facilement trouver sur Internet qui sont...
Les tutos.
Oui, tout à fait. Et je pense que c'est tout à fait rationnel. Et puis, ça permet aussi d'éviter les fake news du style le coup de fer à repasser ou le micro-ondes.
Le micro-ondes,
donc,
oui.
Ouais, voilà. Donc, si les gens...
On va arrêter de faire n'importe quoi.
Ben voilà. Mais par contre, effectivement, je pense que les masques dans la nature, c'est un vrai sujet. Et
on aura l'occasion d'y revenir et on vous réinvitera pour plus de précisions. Merci en tout cas Arnaud-Marie de chez Cosmolis de nous avoir apporté ces précisions. Quand on parle de masques, on parle aussi de tests. Sachez qu'à l'hôpital de Tor Vergata à Rome, l'un des plus grands d'Italie, 150 000 tests sérologiques vont être pratiqués dans les prochains jours sur le personnel médical et sur les forces de l'ordre. Midi 22.
Europe 1.
Restez avec nous sur Europe 1 dans un instant. Une question qui reste toujours sans réponse. Quand le virus est-il vraiment apparu chez nous? Et puis vos questions aussi à Mélanie Gomez, la spécialiste santé d'Europe 1.
Europe 1, Pierre de Villeneau,
Raphaël Duchemin.
12h24 sur Europe 1, l'heure des comptes n'est pas encore venue. Pierre, elle est d'ailleurs malvenue alors que la crise sanitaire n'est toujours pas finie. Pourtant, des questionnements sur la date d'arrivée du virus circulent.
Oui, le Covid était-il présent sur le territoire avant janvier? C'est ce qu'affirme le docteur Yves Cohen, chef du service réanimation des hôpitaux Avicenne de Bobigny et Jean Verdier. Il a décidé de reprendre du coup les tests PCR réalisés sur plusieurs patients atteints d'une pneumonie entre décembre et janvier dernier.
Résultat, un homme, aujourd'hui en bonne santé, a été identifié comme porteur du Covid-19. Il s'agit d'Amiro Chamard, 53 ans, aujourd'hui en bonne santé. Il s'est confié à Hélène Terzian.
Il y a une quinzaine de jours, docteur Yves Cohen, il m'a appelé. Il m'a dit, on est revenu en arrière un peu sur les patients. Et là, on a trouvé vos examens, que vous étiez positif au Covid-19. J'ai dit, comment ça se fait? J'ai dit, au mois de décembre, ça n'existe pas, le coronavirus en France. Il m'a dit, malheureusement, si, et vous étiez positif en ce moment-là. Il m'a dit, est-ce que vous êtes voyagé en Chine ou bien dans les pays asiatiques ces derniers temps? J'ai dit non. Mais après, je lui ai dit, voilà, comme ma femme travaille à Carrefour, pas loin de Charles de Gaulle, il y a des touristes qui viennent faire les courses là-bas. Et à cette époque-là, les aéroports sont ouverts, tout est ouvert, la vie était normale, quoi. Le pire, c'est qu'à cette époque-là, les médecins ne connaissent pas cette maladie, on ne parle pas. Vous imaginez, j'ai échappé belle, j'ai échappé à quelque chose de très dangereux, quoi.
Amiro Chamard avec Hélène Terzian.
On vous le dit, depuis le début de cette épidémie, très peu d'enfants font des formes graves de Covid-19, sauf que ces dernières semaines, quelques dizaines de cas ont été recensés, des enfants de 2 à 10 ans touchés par une maladie inflammatoire grave et qui ressemble beaucoup à la très rare maladie de Kawasaki.
Alors les chercheurs de l'Institut Imagine à Paris analysent des échantillons sanguins d'enfants atteints par cette forme grave. Immersion exceptionnelle dans leur laboratoire avec Victor Delandre, reportage.
Il faut d'abord passer de sas où la pression diminue progressivement. Dans le premier, Marine Lucas se lave les mains et enfile des gants. On arrive dans le deuxième sas. Michael Ménager, directeur de laboratoire à l'Institut Imagine, supervise tous les gestes de protection de l'ingénieur avant qu'elle entre dans le laboratoire.
Marine vient de mettre des surchausses. Là, elle va avoir accès à une blouse. On parle de combinaison intégrale qui va lui permettre d'être protégée de la tête aux pieds avec une surchausse.
Derrière une porte de 5 cm d'épaisseur, l'ingénieur manipule des échantillons plongés dans des congélateurs à moins 80 degrés. 2 à 3 heures dans cette pièce de 20 mètres carrés pour isoler chaque cellule et mieux comprendre le phénomène, comme l'explique Michael Ménager.
On va pouvoir dire des enfants qui développent un syndrome de type Kawasaki par rapport à des enfants sains. Est-ce qu'on retrouve une signature de gène particulière?
Cette technique permet d'établir une carte d'identité cellulaire, une avancée considérable pour la médecine, selon Frédéric Riolocca, lui aussi directeur de laboratoire à l'Institut Imagine.
Ça va permettre d'identifier ceux qui sont à risque de faire des formes inflammatoires sévères et donc de pouvoir intervenir un peu plus tôt que dans l'état d'inflammation grave qui conduit les enfants en réanimation.
Une avancée technologique qui pourrait donc sauver de très nombreuses vies dans les années qui viennent.
Victor, c'est l'heure de retrouver à 12h27 la spécialiste santé d'Europe 1, Mélanie Gomez. Bonjour.
Bonjour Mélanie.
Bonjour, bonjour à tous.
Martine a une question pour vous. Elle a 46 ans, elle est en Gironde. Mon mari a le coronavirus, selon notre généraliste. Puis-je retourner à mon travail le 11 mai ou dois-je rester en télétravail?
Alors c'est un peu délicat comme question. D'abord, vous avez quelqu'un de malade à votre domicile, donc le plus important pour vous, hein, pour l'instant, c'est de suivre avec rigueur les recommandations d'isolement de votre mari, bien sûr, déjà pour éviter que vous soyez contaminé, évidemment. Enfin, ce qui concerne votre travail, puisque c'est votre question, vous dites que vous êtes actuellement en télétravail, eh bien je pense que l'idéal, c'est que cela continue pour vous, voyez, avec votre employeur, hein. Mais je pense que si vous lui expliquez la situation, que votre conjoint est contaminé, ne devrait pas trop vous poser de problème pour que vous puissiez continuer votre activité professionnelle depuis chez vous pendant encore quelques semaines.
Simon nous demande s'il faut continuer à donner son sang en ce moment. Il n'y a pas de risque pour les receveurs si une personne sans symptômes mais Covid plus donne son sang, ou bien il y en a un?
Alors... Non, c'est pas risqué. Hein. Vous le savez peut-être, déjà en temps normal, le don du sang en France est très sécurisé. Alors imaginez bien, en ce moment, l'établissement français du sang va pas s'amuser à relâcher sa rigueur habituelle. Pour rappel, quand même, le sang prélevé lors de don du sang est analysé et systématiquement décontaminé de tous les virus. Il n'existe donc aucun risque a priori à donner son sang ni à en recevoir. Donc oui, les personnes non malades sont fortement invitées à continuer à donner leur sang malgré le confinement. Ça fait d'ailleurs partie des motifs autorisés pour se déplacer. Il suffit seulement de cocher la case motif de santé sur votre attestation de déplacement.
Merci, c'est très clair. Mélanie Gomez, qu'on retrouve à 13h dans le journal et à 15h pour son rendez-vous midi 28.
Europe 1.
Va-t-il y avoir dans les semaines et les mois qui viennent une casse massive au niveau de l'emploi? La réponse dans les 10 minutes qui viennent sur Europe 1.
Europe 1, Pierre de Villeneuve,
Raphaël Duchemin.
12h30 sur Europe 1, l'INSEE publie des chiffres évidemment très peu encourageants hein, ce matin, notamment Pierre, ceux des destructions de postes.
Oui, 453 800 destructions nettes d'emplois privés en France au premier trimestre, c'est moins 2,3%, et c'est colossal. Mais dans ce contexte, tout le monde s'attend à une vague de licenciements massifs dans les mois à venir. Des plans d'aide vont certes être annoncés, le but étant de limiter la casse, surtout chez les jeunes. Emmanuel Dutheil.
Il y a un risque de licenciement massif dans des pans entiers de l'économie française, reconnaît un ministre de tout premier plan. Notre rôle, c'est de limiter quand ce sera possible ces licenciements. Et s'ils doivent vraiment arriver, on devra réussir à accompagner tous ces plans. On doit surtout réussir à donner des perspectives à tous ces jeunes qui vont arriver en septembre sur le marché du travail, ajoute très inquiet ce ministre. Vivre 2 mois en confinement, quand on doit trouver du travail pour la première fois, ça peut être un vrai traumatisme. Il faut mesurer l'angoisse de ces milliers de jeunes, complète un autre ministre. Il faut vraiment réussir à rassurer ces jeunes et à donner envie aux entreprises d'embaucher, malgré cette crise inédite, ajoute-t-il. Du coup, le gouvernement réfléchit en ce moment à des dispositifs pour soutenir l'emploi des jeunes. Une prise en charge par l'État d'une partie des cotisations des jeunes contre embauche fait partie des pistes étudiées. Et c'est pour cela, au SLIC, que le gouvernement pousse au retour au travail. Il faut absolument relancer le plus vite possible la machine, dit-on au gouvernement.
Merci Emmanuel Dutheil. Et c'est évidemment en réaction à ces craintes et à ces chiffres que le patron de la CFDT, Laurent Berger, lance, vous allez l'entendre, une mobilisation pour l'emploi.
Ce que je demande, c'est que les organisations syndicales, les organisations patronales, avec le ministère du Travail et pourquoi pas un certain nombre d'experts sur les politiques d'emploi, se mettent autour de la table pour discuter d'une mobilisation générale sur l'emploi. Très clairement, on n'en mesure pas l'ampleur, c'est vrai. On ne sait pas exactement comment tout ça va tourner, c'est vrai. Mais on sait qu'il y a un gros problème sur l'emploi qui se profile. Eh bien, mettons-nous autour de la table pour innover, pour trouver des solutions. Parmi ces solutions, il y aura peut-être de l'aide aux entreprises qui embaucheront telle ou telle catégorie de salariés. On peut trouver tout un tas de nouvelles mesures potentielles. Mais arrêtons de les distiller au coup par coup, parce que chacun est amené à se positionner.
Laurent Berger avec Sonia Mabrouk. Et en cette période de confinement, beaucoup d'entre vous, beaucoup d'entre nous sommes en télétravail. Chez PSA, on a décidé de tirer tous les bénéfices de ce télétravail pendant cette période exceptionnelle. Le constructeur auto envisage du coup de laisser des personnels qui s'accommodent très bien de ce mode, de rester chez eux et de venir sur site que très peu, par exemple un jour ou un jour et demi en moyenne. Bonjour Benoît Serre.
Bonjour.
Vous êtes vice-président de la NDRH, l'Association nationale des directeurs de ressources humaines. Le confinement a fait des petits au niveau de l'emploi et donne de nouvelles idées.
Ah bah oui, elle accélère surtout des tendances qui étaient observées, qui n'avaient pas vraiment été saisies, on va dire. Notamment le télétravail, évidemment, avec effectivement cet accord PSA qu'on regarde tous avec beaucoup d'intérêt. Bon, PSA est assez habitué d'être assez précurseur dans ces sujets-là en général. Mais effectivement, le système s'accélère, c'est-à-dire que les entreprises ont pu se démontrer à elles-mêmes, non seulement qu'elles pouvaient le mettre en place, mais qu'en plus ça marchait. Que ça leur donnait un certain nombre d'avantages de qualité de vie au travail, de désengorgement des transports hors Covid, et voire quelquefois d'ailleurs de réduction de leur surface immobilière, parce que c'est aussi annoncé comme un des éléments, ce qui fait que le système va accélérer et faire des petits, comme vous dites.
Ça signifie qu'il va y avoir d'autres entreprises comme PSA qui vont lui emboîter le pas, qui vont finalement dupliquer le système à long terme ?
Alors c'est assez probable, beaucoup de discussions, les études et enquêtes qui sortent sur le sujet montrent que c'est une véritable attente des salariés, de voir comment cette crise va permettre de provoquer une réorganisation du modèle habituel de travail, dont le télétravail. Il y aura sans doute d'autres éléments, et les sujets de réorganisation du travail, ils vont aller au-delà de la crise, mais évidemment ils vont se figer ou se fixer pendant la crise parce que c'est une forme d'opportunité. Les entreprises auront besoin de se réorganiser assez fortement pour faire face aux prochains mois qui sont devant nous, même au-delà, prochaines années probablement. Et ça va sans doute faire bouger un petit peu les habitudes très hiérarchisées, très contrôlantes, très structurées, présentes sur site, etc., l'organe du travail. Donc,
Benoît Serre, vous avez prononcé le mot parce que c'est ça aussi, on vante le télétravail. Évidemment, il y a beaucoup d'avantages à ce télétravail, mais il y a aussi, j'imagine, des écueils et des désavantages, des inconvénients pour les entreprises que vous avez listés, et peut-être justement par cette absence de contrôle. Chacun est chez soi, on fait ce qu'on veut.
Alors, effectivement, mettre en place le télétravail de manière généralisée, sans réinterroger son modèle de management, c'est une erreur. Parce qu'évidemment, le modèle de management français, qui est assez hiérarchisé, qui est très présentéiste d'une certaine manière, qui est assez contrôlant,
on pointe.
Doit être remis en cause. Puisque le principe du télétravail, c'est la confiance, c'est la liberté de l'organisation, et c'est être centré sur la délivrance du résultat, plus que sur le nombre d'heures que vous y passez. Alors attention, il faut aussi encadrer les choses, parce qu'on a vu pendant cette période qu'il y avait des excès dans le télétravail, d'organisation, de perturbation. Bah, des gens qui, d'une certaine manière, ont le sentiment légitime d'ailleurs que ça ne s'arrête jamais, qui travaillent entre guillemets presque beaucoup plus quand ils sont sur site. Donc il y a des enjeux de management qui sont extrêmement importants.
Et ça veut dire des formations de vue, on va envoyer les employés, les salariés en formation en disant « Regardez comment est-ce qu'il faut vivre chez soi, laisser du temps pour son travail, pour ses enfants, pour ses loisirs ?»
Les salariés, bien sûr, ça s'apprend, le télétravail. Les managers, parce que ça s'apprend de manager des gens à distance, c'est pas pareil. Et enfin, sans doute une réorganisation du fonctionnement des services, puisque le tout télétravail 100% du temps, comme on le connaît aujourd'hui, évidemment, c'est pas celui-là qui va s'installer. Il va plutôt être partagé dans la semaine. Et donc, il va falloir apprendre à faire fonctionner des entreprises dont certains services seront pour partie présents et pour partie à distance. C'est vraiment une réorganisation générale du modèle de fonctionnement, du pacte social dans les entreprises qui va se profiler. Et c'est exactement ce qui est décrit dans l'accord PSA, d'ailleurs.
Eh bien, merci beaucoup, Benoît Serre. On y voit plus clair avec vous. Vous êtes le vice-président de l'Association nationale des DRH. Midi 37.
Europe 1.
Restez avec nous sur Europe 1. Trois policiers condamnés à Marseille. Ce sera l'un des sujets que nous allons développer dans les 10 minutes qui viennent après un contrôle qui a dégénéré, des pratiques dénoncées d'ailleurs par Amnesty International. Et puis, nous irons aussi en Allemagne où une journaliste allemande porte plainte contre Valéry Giscard d'Estaing pour agression sexuelle.
Europe 1, Pierre de Villeneuve, Raphaël Duchemin.
12h39 sur Europe 1, c'est un contrôle de police qui n'aurait jamais dû se passer ainsi. Un jeune réfugié afghan malmené par trois policiers à Marseille. Tous trois, Pierre, condamnés cette nuit à de lourdes peines.
Oui, 4 ans ferme, 18 mois ferme et 1 an avec sursis. L'homme avait été arrêté lors d'un contrôle Covid, soupçonné d'avoir craché sur deux passants qui lui avaient refusé une cigarette. Contrôle et arrestation qui a totalement dégénéré, Nathalie Chevance, l'un des policiers avouant même avoir commis, je cite, une énorme boulette.
Oui, et l'un des policiers a même lâché cette phrase devant le tribunal. J'ai pété un câble, j'ai vrillé, dépassé par les événements. En fait, le scénario a dégénéré une fois l'individu menotté et placé à l'intérieur du véhicule. Les fonctionnaires évoquent des doigts d'honneur, des insultes. La première erreur, c'est qu'on aurait dû laisser tomber, mais on s'est dit qu'il ne fallait pas en rester là. C'est ce qu'a reconnu aussi le conducteur. Résultat, les deux hommes décident de régler leur compte à l'écart, 30 km plus loin sur un terrain vague. Là, le chef de bord raconte avoir déposé dans le vide-poche ses lunettes de soleil et son arme de service pour ne pas faire de conneries, ce sont ses mots. Le jeune Afghan aurait reçu un coup de poing, une gifle, ça fait du bien, ça soulage. Voilà ce qu'aurait déclaré encore le chef de bord selon la version de l'adjointe de sécurité témoin de la scène. Comportement inexcusable mais peine très sévère, pointe aujourd'hui Bruno Bartocchetti, délégué régional du syndicat de police SGPFO.
On ne peut pas accepter dans notre profession un écart de conduite comme celui-ci, mais en même temps, 4 ans de ferme, c'est très lourd pour des policiers qui jusqu'à ce jour étaient exemplaires dans leur profession, hein, même si on admet que ces policiers devaient être sanctionnés au vu des faits.
33 minutes de folie hors cadre après 20 ans passés dans les CRS sans aucun incident à tenter la défense durant l'audience. Vous n'êtes pas digne de vos uniformes, a répliqué la procureure. Les deux policiers ont été écroués.
Merci Nathalie Chevance à Marseille pour Europe 1 et dans le prolongement de cette problématique. Amnesty International France dévoile ce matin, Raphaël, un rapport sur les pratiques policières pendant le confinement.
Oui, l'ONG a authentifié 15 vidéos d'usage illégal de la force et ou de propos discriminatoires dans 14 villes de France. Sa présidente, Cécile Coudriot, réclame une réaction forte des autorités au micro Europe 1 de Salomé Legrand.
Toutes ces vidéos, les 15, sont des cas où il est vraiment évident, il est avéré que les forces de l'ordre ont fait un usage illégitime, punitif et excessif de la force physique à l'encontre des personnes qui sont interpellées. De graves violations ont été commises, des personnes qui ont été frappées à terre alors qu'elles ne représentaient plus aucune menace. Donc nous voulons vraiment tirer la sonnette d'alarme, que ce soit des pratiques discriminatoires ou des pratiques d'usage excessif de la force, ne doivent jamais être tolérées. Et les autorités doivent le dire extrêmement clairement et que donc des enquêtes soient menées de manière systématique. Puisque nous pensons que ce sont ce type de cas-là qui font beaucoup de mal finalement après dans la population, dans le rapport qu'elles ont avec les forces de l'ordre. Et c'est pourquoi il est si important qu'il n'y ait pas d'impunité et qu'il y ait des enquêtes systématiques.
Cécile Coudriot, présidente d'Amnesty International France avec Salomé Legrand.
L'ancien président de la République, Valéry Giscard d'Estaing, est donc visé, je vous le disais il y a quelques minutes, par une plainte, Pierre, pour agression sexuelle. Plainte déposée par une journaliste allemande et adressée au parquet de Paris.
Oui, Anne-Catherine Stracke de la chaîne de télé allemande WDR qui l'accuse de lui avoir fait des attouchements à l'issue d'une interview qui s'est déroulée en décembre 2018, Hélène Kohl.
Oui, la journaliste francophone travaillait sur un documentaire sur le chancelier Helmut Schmidt, dont l'amitié avec Valéry Giscard d'Estaing a marqué l'histoire des relations franco-allemandes, et l'ancien président français avait accepté de lui accorder un entretien souvenir. À la fin de l'enregistrement, l'équipe de télévision demande à poser pour une photo avec Giscard d'Estaing, et c'est à cette occasion qu'il aurait à deux reprises touché les fesses de la journaliste, âgée d'une trentaine d'années. Elle affirme avoir repoussé sa main. Ensuite, même petit jeu alors que le président fait mine de lui montrer des photos au mur. La scène est confirmée par le caméraman. Selon lui, la journaliste a cherché a bloqué ses attouchements. Elle a signalé son malaise à son équipe qui fait alors diversion en renversant une lampe. De retour à Cologne, elle informe sa direction qui mandate un cabinet d'avocats pour tenter d'établir si le récit de la jeune femme est crédible, s'il y a motif à poursuite. L'enquête dure quelques mois. Anne-Catherine Stracker attend ensuite près d'un an avant effectivement de porter plainte, notamment, dit-elle, pour faire avancer le débat autour des agressions sexuelles dans la foulée du mouvement MeToo. Contacté par la presse allemande, le bureau de Valérie Giscard d'Estaing à Paris signale que l'ancien président ne se souvient pas de la scène, ni même de son entretien avec la journaliste. Il tient toutefois à s'excuser si cela s'est bel et bien passé.
Merci Hélène Cole à Berlin pour Europe 1. Et puis à Londres, cette dépêche ce matin qui nous a intrigués. Le système financier britannique dispose d'un capital plus que suffisant, pour absorber les pertes induites par la pandémie de Covid-19. C'est la Banque d'Angleterre qui dit ça dans un rapport sur la stabilité financière. Bonjour Catherine Mathieu.
Bonjour.
Vous êtes économiste à l'OFC, vous êtes spécialiste du Royaume-Uni et des questions européennes. Ça nous a intrigué dans l'équipe d'Europe Midi, parce que c'est vrai qu'avec le Brexit, avec tout ce qu'on a entendu, on se rend compte finalement que les Britanniques, qu'on croyait fébriles, sont en fait très très stables, et plus que ça financièrement.
Ah ben, c'est-à-dire que financièrement, et il faut bien voir que la Banque d'Angleterre est une des banques les plus puissantes du monde. Et aujourd'hui, effectivement, elle peut dire qu'elle pourra gérer tous les risques financiers liés à la pandémie de Covid-19. Enfin, elle peut le dire et en fait, elle doit le dire. Il est important que les marchés soient rassurés et que personne ne mette en doute la capacité de la Banque d'Angleterre de maintenir le système financier britannique en bon état. Et de fait, elle a vraiment des moyens pour le faire.
Mais ça veut dire qu'elle a les moyens aussi bien pour les classes moyennes et pour la City, c'est-à-dire pour le monde des affaires ?
C'est-à-dire que pour l'instant, ce que fait la Banque d'Angleterre, c'est qu'elle soutient le plus possible l'économie britannique. Elle a baissé ses taux d'intérêt directeurs à 0,1% seulement. Elle achète des titres publics. Elle rassure les entreprises, quelle que soit leur taille, en disant qu'il y aura une garantie des délais de paiement. Et donc, elle fait tout ce qu'elle peut pour soutenir l'économie britannique. Ensuite, la situation sera différente selon les acteurs économiques. Ça sera bien sûr beaucoup plus dur pour les petites entreprises britanniques de maintenir leur activité. On est aujourd'hui dans une période de confinement au Royaume-Uni qui est du même ordre que celle qu'on a en France. Donc pour les petites entreprises, ça sera difficile. Et pour les ménages, pour l'instant, c'est surtout le gouvernement britannique qui a mis en place un dispositif du même ordre que celui qu'on a en France, dit de chômage partiel, et qui garantit aux salariés et aux indépendants qui ne peuvent pas travailler 80% de leurs revenus. Alors ces mesures doivent être en place au moins jusqu'à la fin juin. Donc on a aujourd'hui au Royaume-Uni à la fois la Banque d'Angleterre et le gouvernement qui agissent pour soutenir l'économie britannique.
Ça signifie que par rapport à d'autres pays, y compris la France, on va peut-être avoir des investissements qui vont grossir dans les mois qui viennent en Grande-Bretagne plutôt que dans des pays qui risquent d'être sinistrés.
Là, je ne pense pas. Aujourd'hui, il faut bien voir que le Royaume-Uni est à peu près dans la même situation que l'économie française. On a eu un début de confinement un peu plus tardif au Royaume-Uni, le 23 mars seulement, contre à la mi-mars chez nous. On va voir les mêmes effets économiques se dérouler progressivement sur les données qu'on aura pour le mois d'avril, puis sur le mois de mai. Donc une situation de l'économie britannique qui sera très proche de celle de l'économie française. Ensuite, à plus long terme, que feront les investisseurs ? Aujourd'hui, c'est assez difficile de le dire. Aujourd'hui, les enquêtes sur les entreprises, sur les investissements, en tout cas, indiquent toutes qu'il y a une forte baisse des perspectives d'investissement. Bien sûr, on est vraiment au plein cœur de la pandémie. Après, à plus long terme, je dirais pour l'instant, c'est un grand point d'interrogation. Que feront les investisseurs dans quelques mois ? Enfin, il me semble en tout cas que la situation de l'économie britannique restera très proche de celle de l'économie française.
En tout cas, ça mérite d'être souligné parce qu'on a présenté les Britanniques comme un peu orphelins après le Brexit. Après, on a inventé des scénarios avec un libre-échange accéléré avec les États-Unis, avec le Canada. On s'est dit qu'il y aurait peut-être même un bras financier transatlantique entre ces deux pays. Finalement, et j'en reviens en fait à ce qu'on disait tout à l'heure, c'est qu'on se rend compte que les Britanniques financièrement sont extrêmement puissants.
Oui, bien sûr, ça c'est un élément très important, cette puissance financière des Britanniques, et d'une part, et d'autre part sur la question du Brexit, hein, en fait, toutes les discussions et tous les scénarios qui ont été établis suite au vote des Britanniques en faveur du Brexit en juin 2016 n'ont pas été suivis d'un écroulement de l'économie britannique. Hein. L'économie britannique s'est plutôt bien maintenue et effectivement a eu des performances qui sont restées assez voisines de celles de l'économie française. Alors aujourd'hui, le Brexit n'a pas eu lieu. Hein. On est encore en train de discuter pendant la période de transition de ce qui se passera après cette période de transition. Donc les discussions ont redémarré entre le Royaume-Uni et l'Union européenne. Et puis du côté des États-Unis, eh bien, les Britanniques ont commencé à négocier cette semaine un accord de libre-échange avec les États-Unis. Alors on voit bien que ce que souhaitent les Britanniques, hein, aujourd'hui, en tout cas le gouvernement actuel, c'est rester ouvert sur le large monde, c'est effectivement rester très proche des États-Unis et maintenir de bons liens économiques et financiers à la fois avec l'Union européenne, les États-Unis aussi.
On n'arrivera jamais à couper le cordon avec les États-Unis, hein, pour les Britanniques. C'est quand même une histoire qui remonte à plusieurs centaines d'années. Merci beaucoup, Catherine Mathieu. Et puis, je ne citerai, pour terminer, Nigel Farage, qui, sur Europe 1, disait que, finalement, c'était Bruxelles le problème dans l'Europe et qu'on pouvait tout à fait continuer le libre-échange avec les pays, européens, directement. Merci beaucoup. Il est 12h50 sur Europe 1.
Europe 1.
Et nous sommes ensemble évidemment jusqu'à 13h avec deux questions. À quoi vont ressembler les rues commerçantes dès lundi? Nous irons à Bordeaux voir comment les boutiques se préparent. Et puis côté transport, allons-nous tous opter pour le vélo? La demande des particuliers est en forte hausse.
Europe 1, Pierre de Villeneuve,
Raphaël Duchemin.
12h52, nous partons pour un lieu emblématique à Bordeaux, une rue où la foule a l'habitude de se rassembler pour faire du shopping, en particulier le samedi. La rue Sainte-Catherine va changer de visage à partir de lundi. En tout cas, Pierre, on ne pourra plus du tout y circuler comme avant.
Ah oui, réorganisation indispensable pour éviter la proximité, les contacts, le prix à payer aussi pour ouvrir les magasins. Des commerçants qui ont travaillé avec la préfecture et la mairie pour trouver toutes les solutions possibles, ajustées, revues. Reportage de Stéphane Place à Bordeaux.
La rue Sainte-Catherine, plus d'un kilomètre de long, près de 10 mètres de large, des boutiques à droite comme à gauche. Mais dès lundi, plus question de déambuler ici en passant d'un côté à l'autre. La rue va être scindée en trois parties distinctes. Christian Bolme préside la Ronde des quartiers, l'association qui réunit les commerçants bordelais.
Les deux bandes grises, comme dans toutes les rues piétonnes, le long des façades, seront transformées en zones d'attente pour entrer dans les commerces. Rue balise. On n'a pas voulu la barrière grise métallique avec ses deux pieds en travers. C'est un casse-gueule phénoménal, donc rue balise. Pour éviter ces masses, les gens qui se croisent de gauche à droite pour rentrer dans les magasins, qui vont couper des fils, etc.
Égare aux livreurs qui ne respecteraient pas les nouvelles règles ou aux passants, aux clients qui oublieraient les distances, Nicolas Florian, le maire de Bordeaux.
On va utiliser la vidéosurveillance pour être réactif. Si on s'aperçoit d'ailleurs qu'il y a une forte concentration, que les gens ne respectent pas les distanciations, d'être très réactif et avec la police nationale et avec la police municipale, plus des agents sur place et qui, ici ou là, expliqueront aux gens le bon usage de l'espace public.
Le maire de Bordeaux qui souhaite imposer, notamment dans la rue Sainte-Catherine, le port du masque qui sera de toute façon obligatoire dans de nombreuses boutiques. Bordeaux, Stéphane Place, Europe 1.
Et alors que le déconfinement se profile, hein, vous êtes nombreux à dire pas question de remettre un pied dans les transports en commun. Du coup, Pierre, vous vous tournez vers le vélo.
Bah, pas moi en tout cas, mais en tout cas ces dernières semaines, les ventes en ligne de deux roues ont explosé, plus 50% pour le site Rakuten, plus 30% pour le site Decathlon, et un grand gagnant, c'est le vélo électrique. Élise Dangean.
Oui, et cette tendance ne profite pas qu'aux géants. L'entreprise Vélo Bécane, par exemple, vient de vivre un mois d'avril tout à fait exceptionnel. 500 vélos électriques vendus contre 200 l'an dernier à la même période. Une hausse d'activité qui s'intensifie à mesure que le déconfinement approche. Arnaud Hadouk est le patron de Vélo Bécane.
On n'a jamais eu autant de commandes. C'est du non-stop. On n'a plus d'horaire. On a doublé les effectifs. À l'assemblage, on est passé de 10 à 20 personnes en l'espace d'un mois, un mois et demi. Il ne faut pas oublier une chose, c'est que la boutique à Paris est fermée. Et aujourd'hui, bah, les clients se sont un petit peu transformés. Ils ont plus pris l'habitude d'être passés commande directement en ligne. Les gens ne veulent plus prendre les transports en commun. Et donc, moi, ils sont obligés de s'équiper.
Alors, pour s'équiper d'ici au 11 mai, il faut souvent passer par Internet. Mais les entreprises du secteur se préparent déjà à la réouverture de leur boutique. Celle que nous avons pu joindre l'assure. Il y aura du stock et même des offres promotionnelles pour encourager une dynamique déjà bien enclenchée. L'an dernier, près d'un vélo sur deux vendu en France disposait d'une assistance électrique.
Élise Dangean.
Emmanuel Macron l'a dit hier, hein, les artistes vont devoir se réinventer encore et encore. Ils le font déjà, mais peut-être que ce sera l'occasion, Pierre, de voir qui c'est, Céline Dion ou Elton John en petit comité.
Oui, et outre les concerts privés en confinement, le président a aussi poussé les artistes à utiliser cette période pour faire une révolution de l'accès à la culture. Dans les écoles, c'est le cas des ateliers, et c'est ce que fait déjà Camélia Jordana, qui espère que cette crise favorisera ce type d'action, même une fois que les concerts seront revenus.
Je crois que la façon qui était évoquée de créer ce lien avec un public, en fait, c'est un modèle qui existe déjà pour les artistes, en fait, et qui est déjà mis en place. Alors peut-être qu'il sera plus valorisé et qu'il sera plus présent. Parce que c'est une chose importante, en fait, ces ateliers-là. Moi, à chaque fois que j'ai eu la chance d'en faire, c'était vraiment très joyeux, en fait, d'être au contact des gens en direct et d'échanger. Et j'espère que ça permettra simplement de mettre de la lumière et sur les gens qu'on ira voir, s'ils ont cette appétence pour l'art et la culture, et sur les artistes qui font déjà ce travail-là depuis des années, en fait.
Mais ne me regarde pas comme si c'était facile. Tu sais bien que moi, je ne suis
pas. Notre Angèle à nous, Angèle Châtelier. Si
merci Pierre. On se retrouve demain, même heure,
à demain.
Midi, pour Le Grand Journal. À demain. Vous avez reconnu la petite musique qui annonce Anissa Dadi pour la météo. Anissa, le soleil brille encore avec quelques nuages tout de même du côté de la façade ouest. Anissa, est-ce que vous êtes là?
Oui, effectivement, Anissa, je suis là.
Cachée derrière un nuage.
Oui, effectivement, derrière ce beau ciel bleu, nous aurons cet après-midi du Poitou à la Normandie sur le quart nord-ouest. Un peu plus de nuages, avec d'ailleurs sur la pointe bretonne quelques petites gouttes. Partout ailleurs, le soleil brille, c'est une très belle journée. D'ailleurs, dans le sud, le vent d'autant se lève, hein, il souffle jusqu'à 60 km/h. Les températures cet après-midi, elles sont plus fraîches au nord qu'au sud, avec 17 à Dunkerque, 19 à Cherbourg, 21 à Nice, 22 à Lille, 24 à Clermont, 23 pour Paris, 25 à Lyon, et jusqu'à 29 cet après-midi dans le sud-ouest à Mont-de-Marsan.